Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le président tunisien se donne une année pour modifier le système politique. Le Parlement restera suspendu jusqu'à de nouvelles élections législatives organisées à la fin de l'année prochaine. Notre invité sera le président du groupe d'amitié France-Tunisie à l'Assemblée nationale, le député Jérôme Lambert. Le 42e sommet des États du Golfe, il s'est ouvert aujourd'hui à Riyad. Après la fermeture de ses frontières pour faire face au Covid, le Maroc autorise exceptionnellement les Marocains bloqués à l'étranger à retourner dans le royaume. Un collectif citoyen appelle les Français issus de l'immigration à s'inscrire sur les listes électorales pour faire barrage à l'extrême droite. À l'origine de cette initiative, Mohamed Najib, que nous écouterons. L'inclusion des élèves en situation de handicap, une large intersyndicale de l'éducation en Loire-Atlantique a appelé à la grève et a manifesté ce mardi. Entretien dans votre journal avec Gwenaël Leguével, professeur des écoles à Nantes et secrétaire régional du SGEN CFDT. La demi-finale ce mercredi de la Coupe arabe des Nations, face à face Tunisie, Égypte et Algérie, Qatar. Le mondial de handball, victoire des Bleus contre la Russie hier soir. Elles joueront face aux Suédoises en quart de finale ce mercredi à 20h30. Le président tunisien Kais Saied a prolongé la suspension du Parlement jusqu'à la tenue de nouvelles élections législatives le 17 décembre 2022. Dans un discours à la Nation, le chef de l'État a aussi annoncé une série de consultations à partir du 1er janvier. Des consultations qui porteront notamment sur des amendements constitutionnels et électoraux qui seront ensuite soumis à référendum le 25 juillet. Le discours du président tunisien est intervenu quelques jours avant des manifestations prévues par ses opposants mais aussi ses partisans le 17 décembre. Jour de la célébration du 11e anniversaire de la révolte contre le régime de Zine El Abidine Ben Ali, révolte qui a donné le coup d'envoi au printemps arabe. Réaction suite à ces annonces du président tunisien, du président du groupe d'amitié France-Tunisie à l'Assemblée nationale, le député Jérôme Lambert.
Je m'attache beaucoup aux relations entre la France et la Tunisie. Ce qui nous importait, sans vouloir nous mêler directement de la politique intérieure tunisienne, c'est pas le propre de n'importe quel groupe d'amitié, quel qu'il soit. Ce qui m'importait, c'est de voir quand même que ce pays, votre pays, puisse avoir des perspectives qui soient clarifiées. C'est vrai que quand le président Kais Saied avait décidé la suspension du Parlement, pendant... On se demandait jusqu'à quand, qu'est-ce qui allait se passer, etc. Alors évidemment, maintenant, on a un calendrier. Certes, on pourrait dire que le calendrier est encore lointain, puisque des prochaines élections parlementaires ne seront programmées que dans un an, et que, en attendant, une réforme de la Constitution va intervenir. Tout ça semble un petit peu long, bien entendu, mais moi, je préfère quand même que la Tunisie se dote d'un programme, d'une feuille de route, quitte à critiquer évidemment la durée, mais plutôt que de rester dans un flou et dans une incertitude. Voilà, donc nous voyons que le président Kais Saied a, semble-t-il, quand même tracé un cadre dans lequel maintenant les Tunisiens vont devoir travailler, parce que il s'agit sans doute pas, je l'espère en tout cas dans l'esprit du président, que les Tunisiens, interrogés en juillet pour une réforme constitutionnelle, puis après en décembre, ne soient là que pour systématiquement dire bravo, merci à tout ce qui va être proposé. Je pense qu'ils vont travailler, les Tunisiens, aux propositions qui peuvent être faites, et puis finalement se décider librement. C'est ce qui va compter pour la Tunisie et pour l'ensemble aussi des relations que peut entretenir la Tunisie avec l'Europe et avec la France.
Comment ces relations, justement, peuvent être qualifiées depuis ce qui a été qualifié de coup de force par une partie de la population du président Kais Saied le 25 juillet dernier?
Ce qui s'est passé en juillet dernier était une action qui était inattendue. De là à la qualifier de coup de force, oui, il a bouleversé, il a bousculé le fonctionnement des institutions tunisiennes, mais il faut reconnaître, nous le reconnaissons volontiers, que la Tunisie était dans une situation de grandes, grandes difficultés en matière de fonctionnement de ces institutions. Maintenant, le président étant l'homme fort de ce régime, c'est le président qui a pris les devants et qui a finalement provoqué une forme d'électrochoc, une forme de changement qui doit intervenir dans les institutions tunisiennes. Mais il appartiendra au peuple tunisien, je l'espère, j'y crois, parce que je crois au peuple tunisien, je crois à cette démocratie tunisienne, il appartiendra au peuple tunisien de déterminer à travers ce qui est proposé prochainement, même si c'est dans quelques mois, de proposer quel est le chemin qu'il entend suivre.
Le président du groupe d'amitié France-Tunisie à l'Assemblée nationale, le député Jérôme Lambert. Le 42e sommet du Conseil de coopération du Golfe ce mardi à Riyad, un sommet après la tournée du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman dans les États de la région. Parmi les sujets, le développement des relations économiques entre les pays qui composent le CCG, mais aussi les sujets politiques comme la guerre au Yémen, la situation au Liban ou les relations avec l'Iran. Le gouvernement marocain autorise exceptionnellement les Marocains bloqués à l'étranger à retourner dans le royaume, une mesure qui concerne les personnes bloquées en raison de la fermeture des frontières. Des vols de passagers sont prévus à partir du Portugal, de la Turquie et des Émirats Arabes Unis, une opération qui concerne les citoyens marocains qui résident au Maroc et qui ont quitté récemment le territoire national. Avant l'embarquement, chaque passager devra présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures. La France, c'est aussi nous, tous inscrits face à l'extrême droite, le mot d'ordre d'un collectif citoyen. Objectif, inciter les Français issus de l'immigration à s'inscrire sur les listes électorales. La France, c'est aussi vous. Vous avez le droit et le devoir de faire entendre votre voix en prenant part à la vie politique de votre pays. C'est ce qu'affirme Mohamed Najib à l'origine de ce collectif. Selon lui, il faut aussi se mobiliser pour faire face à l'extrême droite. Mohamed Najib.
La raison, c'est simple. C'est simplement lorsque je regarde l'actualité, notamment, il faut le dire, les choses telles qu'elles sont, avec les attaques actuelles de Zemmour contre l'immigration, à titre personnel, en tant que père de famille, en tant qu'enfant, en tant que personne issue de l'immigration, je me suis senti très insulté par ça. Lorsque je regarde les réactions politiques, il n'y a pas de véritable réaction. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce qui m'a choqué plus, c'est pas tant que l'extrême droite soit forte et affirme son point de vue. C'est surtout que je regarde de l'autre côté, tous ces immigrés dont je fais partie ne se mobilisent pas, ils ne participent pas, ils ne réagissent pas, ils sont là comme des observateurs et ça, c'est ça qui m'a donné envie d'aller réagir et lui dire non, non les gars, vous êtes tous français aussi, vous êtes français, vous êtes là chez vous, il faut faire entendre votre voix, c'est ça qui m'a fait réagir réellement et c'est ça que je voudrais que les gens entendent.
Faire entendre sa voix, c'est notamment s'inscrire sur les listes électorales.
Exactement. Mais en fait, je pense que les gens, avant de dire inscrire sur les listes électorales, il y a une question, parce que je parlais avec des amis, j'ai un ami sénégalais et un voisin. Son grand-père est mort durant la guerre de 1914. Et quand je lui pose la question, est-ce qu'il est français, il me dit non, je me sens plutôt sénégalais. Voyez-vous. Et pourtant, il est en France, son père est mort pour la France, et pourtant, il ne se sent toujours pas français. Et ça m'a choqué parce qu'en fait, les gens, avant de leur dire inscrivez-vous sur la liste électorale, il faut déjà se poser la question de l'identité. Il faut dire à tous ces gens-là, tous ces amis et tous ces amis de l'immigration, c'est qu'en fait, ils sont français. Pourquoi est-ce qu'ils sont français? Parce qu'ils ont choisi de vivre ici. Ils ont choisi de vivre ici, de passer leur vie ici, de participer à cette vie collective, et donc ils sont français. Parce que pour eux, la France, c'est quoi? La France, c'est le stéréotype que donne l'extrême droite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire s'appeler Eric, manger du porc, avoir une bouteille de vin sur la table. Non, la France, c'est pas ça, les amis. La France, c'est pas ça. Ça, c'est le stéréotype de l'extrême droite. La France, c'est aussi manger du couscous, boire du thé et s'appeler Mohamed, comme je le suis. Et je suis français. Et c'est d'abord le premier ministre, c'est de dire aux gens, vous êtes français, vous êtes légitime à vous sentir français, car vous l'êtes, vous avez choisi de passer votre vie ici en France, et donc vous êtes français. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir passé 15 ans, 40 ans de sa vie en France, pour se rendre compte, a posteriori, qu'en fait, je suis français. Non, vous l'êtes dorénavant, dès que vous avez choisi de vivre en France. Ça, c'est la première chose. Et parfois, et j'entends les gens, quand je leur dis je suis français, il y a un petit sourire, il y a un petit ricanement qui est derrière, qui dit, non, mais c'est pas vrai, t'es pas vraiment français. Bien sûr que si, je suis français. Et ça, c'est le premier message, avant de dire, il va falloir voter. Mais parce que pour voter, il faut d'abord se sentir membre de ce pays-là. Et c'est là, à mon avis, le premier des combats. Il faut que les gens se sentent français illégitimes de défendre leurs droits.
Et donc ce collectif se mobilise notamment le week-end sur les marchés ?
Exactement, voilà, c'est ça. On passe sur le marché parce que c'est là où le marché, c'est là où il y a la vie, hein. Où les gens sont là, où il y a la diversité. Et moi-même, comme je l'ai dit, j'ai travaillé dans les marchés quand j'étais jeune, donc je connais cette ambiance-là. Et j'ai envie de leur dire à ces gens-là qui, quand je leur pose la question, est-ce que vous êtes inscrit sur les listes électorales? Pour ceux qui le peuvent, ils me disent non, souvent. Et pour ceux qui ne le peuvent pas, je leur pose la question, est-ce que vos enfants sont inscrits sur les listes électorales? Et là encore, ils me disent non, ils savent pas trop. Bref, ils sont pas impliqués parce qu'encore une fois, il y a ce problème d'identité qu'on doit régler entre nous. Et alors, effectivement, les actions terrain, c'est sur les marchés, principalement, et sur les lieux vraiment populaires.
Mohamed Najib du collectif La France, c'est aussi nous. Il est possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 22 mars prochain. Mohamed Najib répondait à Loïc Barrière. Gérald Darmanin dit avoir enclenché la procédure de fermeture administrative de la Grande Mosquée de Beauvais, dans l'Oise. Le ministre de l'Intérieur dénonce la radicalité des prêches qui y sont donnés. Une mosquée qui, selon lui, combat les chrétiens, les homosexuels, les juifs. Il évoque des prêches incitant à la haine, à la violence et faisant l'apologie du djihad. La préfecture de l'Oise a confirmé envisager de prendre une décision de fermeture de la Grande Mosquée de Beauvais, pouvant aller jusqu'à 6 mois. Le Conseil scientifique détaille les recommandations à appliquer durant les fêtes de fin d'année pour limiter les contaminations au Covid-19. Le Conseil invite à limiter le nombre d'invités lors des repas. Il faudra aussi aérer les pièces et penser à pratiquer un autotest avant de rencontrer ses proches. L'inclusion des élèves en situation de handicap, une large intersyndicale de l'éducation en Loire-Atlantique, a appelé à la grève et a manifesté ce mardi. Elle proteste contre le manque de moyens et de personnel dans les écoles inclusives accueillant des enfants en situation de handicap. Gwenaëlle Le Guével, professeure des écoles à Nantes et secrétaire régionale du SGEN CFDT.
À court terme, c'est à la fois des solutions quantitatives mais aussi qualitatives, c'est-à-dire sur le quantitatif, il y a besoin de moyens, hein, tout simplement. L'éducation, la santé, là, ça passe par des moyens. Mais on dit aussi que ce qui est très important, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces moyens. Et donc, il y a un vrai sujet qualitatif, surtout avec la culture française de séparation en silos, en tuyaux d'orgue du fonctionnement de l'école aujourd'hui. Sur l'école inclusive, il y a un vrai sujet sur la séparation de l'éducation nationale et du médico-social.
Ça, c'est un chantier qui a été partiellement ouvert depuis la loi de 2005, la loi Monchamp.
Ouais, c'est ça. Alors la loi de 2005, elle a commencé à faire passer cette idée qu'il fallait que l'école devienne inclusive. Mais on a un débat depuis ce temps-là entre est-ce que c'est l'élève qui doit s'adapter à l'école ou est-ce que c'est l'école qui doit s'adapter à l'élève, hein. Donc en termes un peu plus spécialistes, on va dire, c'est le débat entre l'accessibilité et la compensation. Est-ce qu'on compense en se basant sur l'élève, on essaie de compenser un maximum pour qu'il puisse s'adapter à l'école, ou est-ce qu'on rend l'école plus accessible pour qu'elle puisse être ouverte à tout le monde? Aujourd'hui, nous, on pense qu'on est un peu trop sur une logique de compensation et pas assez sur l'accessibilité. Mais ça suppose de repenser complètement le fonctionnement de l'école aujourd'hui. Et ça suppose aussi de faire des rapprochements, de travailler à la coopération entre deux mondes qui s'ignorent encore un peu, qui sont celui du médico-social, donc des IME, des instituts, des ITEP, et celui de l'école ordinaire, comme on dit, ce qu'on est encore dans une culture française d'externalisation quand même.
Et vous déplorez aujourd'hui cette séparation entre le ministère de l'Éducation nationale et le secrétariat d'État aux personnes handicapées.
Ben c'est ça, oui. C'est-à-dire que tant qu'il y a cette séparation-là, c'est très compliqué de mettre en place cette coopération, qu'elle soit effective et fine sur le terrain, puisque ça c'est pas d'un claquement de doigts qu'on fait en sorte que un plateau technique d'IME s'installe dans une école pour travailler à l'inclusion des élèves. Ça c'est concret, hein. C'est le format vers lequel nous on aimerait aller, c'est-à-dire qu'il y ait plus d'adultes dans les écoles et des adultes formés pour accompagner ces élèves, et puis qu'ils puissent permettre une grande souplesse à l'intérieur de l'école. Voilà. Et donc du coup, qu'on soit sur une école beaucoup moins normative et beaucoup plus souple, qui puisse s'adapter au parcours des élèves, quoi.
Voilà. Vous demandez donc le recrutement, la formation aussi d'accompagnants des élèves en situation de handicap et l'ouverture de postes supplémentaires d'enseignants et de psychologues scolaires.
Oui, alors tout à fait. Alors après, sur les accompagnants d'élèves en situation de handicap, les accompagnantes d'ailleurs, on pourrait dire, elles sont aujourd'hui scandaleusement sous-payées. Là, il y a tout un enjeu. Il faut surtout en faire un vrai métier, c'est-à-dire que ce soit des gens à temps plein Ce qui suppose de redéfinir peut-être leur périmètre d'action, qu'ils soient plus des agents d'accessibilité. Il y a des projets là qui sont intéressants. Que ce soit des gens qui aient d'autres tâches supplémentaires à l'intérieur de l'éducation nationale, qu'on puisse les payer correctement. Là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont à 800 euros par mois. C'est un scandale, ça, c'est clair. Donc, du coup, et qui ce sont eux qui sont en charge de rendre l'école inclusive, c'est pas du tout normal.
Gwenaëlle Le Guével, professeur des écoles à Nantes, secrétaire régionale du SGEN CFDT. La demi-finale de la Coupe arabe des Nations, ce sera ce mercredi à 16h. La Tunisie jouera face à l'Égypte. À 20h, l'Algérie sera face au Qatar. Les vainqueurs de ces deux matchs se retrouveront en finale samedi prochain à 16h. Le mondial féminin de handball, les Bleus restent invaincus. Les championnes olympiques de Tokyo joueront face aux Suédoises en quart de finale du mondial ce mercredi à 20h30. Cela après une victoire contre la Russie 33-28 hier soir. Vous êtes bien sûr Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Aurélie Trouvé, présidente du Parlement de l'Union Populaire qui soutient la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Une émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.